tenir mardi l'élection présidentielle américaine. Nous faisons dialoguer Alice Kaplan, écrivaine, historienne et professeure de littérature française à l'université de Yale, qui vient tout juste de publier un tract Gallimard, avec Myriam Revaud-Allon, philosophe, qui a travaillé sur la question du vrai. Et le thème de cette émission de ce soir sera « La démocratie est-elle menacée par la post-vérité ?» Il est 18h sur France Culture. Et ce soir, le journal est présenté par Annabelle Grelier. Bonsoir Annabelle.
Bonsoir. Au lendemain de ce nouvel attentat dans la basilique de Nice, une attaque au couteau qui a fait 3 morts, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce le renfort de quelques 7000 membres des forces de l'ordre. Ils seront mis dès lundi à disposition des préfets pour assurer la sécurité, notamment autour des lieux de culte chrétiens. Alors que dans le monde musulman, les manifestations contre la France se multiplient. Effigie du président français brûlée, appel au boycott et violence. Des dizaines de milliers de personnes ont de nouveau manifesté ce vendredi dans plusieurs pays musulmans et arabes pour protester contre la France au sujet des caricatures du prophète Mahomet. Et sur le front de la pandémie, la France désormais reconfinée. Un confinement moins dur qu'en mars dernier, puisqu'écoles, collèges et lycées resteront ouverts. Le travail pourra continuer, seuls les commerces dits non essentiels resteront fermés. Des restrictions vécues parfois comme une injustice. Les libraires notamment se rebellent, surtout quand ils voient les FNAC obtenir des dérogations. Les précisions dans ce journal. Au lendemain de ce nouvel attentat dans la basilique de Nice, une attaque au couteau qui a fait 3 morts, 2 femmes et 1 homme, le gouvernement a décidé lors du Conseil de défense ce matin de renforcer la sécurité sur le territoire national. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce le renfort de quelques 7000 membres des forces de l'ordre, dont pour moitié des gendarmes réservistes. Ils seront mis dès lundi à disposition des préfets pour assurer la sécurité, notamment autour des lieux de culte chrétiens. La tension est forte, particulièrement ce week-end de la Toussaint, Bertrand Galichet.
Un message d'urgence attentat a été envoyé dès hier à l'ensemble de nos ressortissants, quels que soient les lieux, annonce Jean-Yves Le Drian, qui appelle les Français partout à la prudence. On passe vite de la haine virtuelle à la violence réelle, constate le ministre des Affaires étrangères. Face à la multiplication des manifestations et des discours anti-français dans le monde musulman, tous les ambassadeurs ont donc reçu pour instruction de renforcer la sécurité des ambassades et des consulats, mais aussi des alliances françaises et des écoles. Selon le ministre, les établissements scolaires ne pourront ouvrir qu'à partir du moment où la vigilance aura été accrue et quand une attention aura été portée à l'égard des parents, des enseignants et des élèves. Le chef de la diplomatie française dit que ces mesures sont prises en relation avec les autorités locales qui, d'une manière générale, apportent leur concours. Cette précision donne à penser que la coopération des pays les plus impactés par ces manifestations n'est pas spontanée partout. La menace contre les représentations diplomatiques françaises est très concrète. Ainsi, au Bangladesh, à Dhaka, la sécurité a été renforcée autour de l'ambassade de France, tandis que 40 000 personnes défilaient en ville. Au Pakistan, à Islamabad, la police a bloqué des manifestants qui se dirigeaient vers l'enclave diplomatique en hurlant contre les Français. Des protestataires ont lancé des pierres contre les forces de l'ordre qui ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogène.
Les manifestations, on en reparle. La France, qui abrite la plus grande communauté musulmane d'Europe, est engagée dans une guerre contre une idéologie islamiste, a déclaré Gérald Darmanin, estimant que de nouveaux attentats sur le sol français étaient probables. Le plan Vigipirate a été renforcé. Le ministère de l'Éducation a décidé d'alléger la cérémonie d'hommage prévue lundi matin dans les écoles. Ne serait-ce donc pour garder pour l'instant que la minute de silence, Hakim Kasmi.
Oui, effectivement, Annabelle, s'il est bien sur l'aspect sanitaire, le ministère a préféré alléger cette cérémonie en raison des risques encourus dans les établissements. Le ministère voulait absolument éviter d'avoir des rassemblements très importants devant chaque école, ce qui aurait été le cas s'il y avait eu cette heure banalisée destinée à l'échange des enseignants avant une rentrée prévue pour les élèves à 10h. Une bonne décision, selon Florence Delannoy, la secrétaire générale du SNP2N, le principal syndicat des chefs d'établissement.
C'est important aussi d'avoir un moment où on se retrouve ensemble pour discuter et échanger. Et donc, ça paraît bien de pouvoir avoir un temps supplémentaire de façon à être sûr que tout se passe au mieux et que surtout l'objectif soit atteint. L'objectif, c'est de rappeler aux élèves les valeurs républicaines, la liberté d'expression, la liberté d'opinion et ça ne s'improvise pas.
Du côté des enseignants, il y a une grande déception, car on aurait voulu que cette heure destinée à Samuel Paty soit maintenue. Alors certes, il y aura bien une silence et la lecture du texte de Jean Jaurès, mais les communes, elles aussi, s'étaient préparées à recevoir les élèves, notamment pour le temps périscolaire jusqu'à 10h. Du coup, il y a une grande déception de la part de Guylaine David, secrétaire générale du SNUIPP.
Certaines écoles et certaines municipalités s'étaient mis d'accord pour accueillir les enfants de 8h30 à 10h donc par les collectivités locales. Il y avait des négociations qui s'étaient faites au local et puis finalement ça va pas se faire. Donc voilà, on va encore être dans l'impréparation et dans les modifications de la rentrée de ce 2 novembre qui sera vraiment très très particulière du fait à la fois de l'attentat contre Samuel Paty, à la fois des attentats de Nice et à la fois du nouveau protocole sanitaire à mettre en place.
Quant à cette heure d'échange destinée entre les élèves et les enseignants, notamment à travers les EMC, elle sera bien maintenue, mais le ministère indique que les enseignants pourront choisir durant le mois de novembre le moment durant lequel ils voudront faire cette heure d'hommage.
Merci Hakim Kasmi. Et des manifestations contre la France et ses caricatures un peu partout ce vendredi, jour de prière dans le monde musulman, au Liban, en Libye, en Palestine, au Bangladesh. Le Pakistan célèbre lui la naissance du prophète Mohammed. À cette occasion, certains leaders religieux ont appelé à manifester contre les propos tenus la semaine dernière par le président français qui a défendu la liberté de caricaturer les religions. Plusieurs manifestations donc ont lieu dans plusieurs grandes villes du pays. Des échauffourées ont éclaté entre manifestants et forces de sécurité. Reportage de Sonia Ghezali, correspondante de RFI à Islamabad.
Si vous aimez la France, si vous aimez ces chiens de français quitter notre pays et aller perdre votre âme en France, ce sont les mots criés par l'un des organisateurs de la manifestation, perché sur une remorque. Il surplombe les manifestants. Dans la foule, Walyuka Salim, un étudiant en physique.
Nous demandons à ce que l'ambassadeur de France soit expulsé du Pakistan. Nous ne pouvons pas tolérer que l'on insulte notre prophète. Cela heurte notre sensibilité. Un message fort doit être envoyé à la France pour faire savoir qu'on n'accepte pas les insultes envers notre prophète.
Une fumée s'élève au-dessus d'un attroupement de manifestants. Ils regardent un portrait d'Emmanuel Macron dévoré par les flammes. Un manifestant porte une banderole sur laquelle est inscrite « Aux Français, notre bombe atomique est prête pour anéantir votre existence ». Sardar Mohsin Abbassine est l'un des organisateurs de la manifestation. Il est le chef de file d'une organisation d'étudiants.
Nous resterons ici jusqu'à notre dernier souffle. Nous exigeons que cet ambassadeur rentre chez lui.
Les manifestants parviennent à briser le cordon de sécurité de la police. Ils réussissent à atteindre les abords de l'enclave diplomatique où des échauffourées éclatent avec la police. Ce n'est que 2 heures plus tard que les manifestants seront dispersés par les forces de l'ordre.
Et nous voilà donc reconfinés. La France va pour les 4 prochaines semaines vivre une nouvelle fois au ralenti. Un confinement évidemment destiné à freiner la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19. On parle beaucoup des hôpitaux, un peu moins des médecins généralistes, les médecins de ville, qui eux aussi sont sur le pont, et particulièrement dans les quartiers populaires. Le docteur Christophe Lamar travaille à Roubaix. Ses patients viennent des quartiers nord et il a dû fermer son cabinet tellement il y avait de monde dans la rue. Tara Schlegel l'a rencontré.
Le docteur Lamar s'est accordé une toute petite pause pour raconter comment depuis quelques semaines, il doit filtrer toutes les demandes par téléphone. Il en a eu jusqu'à 200 lundi.
Dans un cabinet porte ouverte, même si on met des rendez-vous, il y a des gens qui viennent entre deux. Et les gens, ils se pointent devant la porte. Moi, ça fait 26 ans que les gens me connaissent. Tout le monde a une exception à mettre en avant pour dire « Oui, mais moi, j'étais obligé de venir. »
Au cabinet.
Voilà, au cabinet.
Donc vous avez fermé ?
Oui, la porte, elle est fermée. On a installé un visiophone. Et les gens qui n'ont pas rendez-vous, ils rentrent pas. Et les gens qui viennent, par exemple, à 6 pour accompagner la grand-mère ou le grand-père, eh ben c'est pareil, ils ne rentrent plus. Si la grand-mère ou le grand-père a du mal à marcher, eh ben y a une personne qui rentre, ou un traducteur, mais c'est tout.
Désormais, il est même obligé de rester chez lui, mais c'est tout récent.
Parce que vendredi, j'ai consulté toute la journée. La porte fermée, mais dans mon cabinet. Vendredi, j'ai fini, il était 11h du soir, il était 23h. Ouais. En fait, et j'ai vu des gens positifs. C'est ça aussi qui m'a effrayé, c'est-à-dire qui était malade, qui toussait, même une dame qui vomissait, en fait, qui a fait un malaise dans mon cabinet, que j'ai dû relever, etc. Le lendemain, elle a fait un test positif.
Pour ne pas s'infecter et contaminer tous ces patients qui ont besoin de lui, Christophe Lamar consulte donc surtout à distance.
Je les prends en téléconsultation quand ils ont le matériel. Parce que beaucoup de gens n'ont pas de smartphone, n'ont pas de connexion Internet. Ici, on est quand même à 45% des gens sous le seuil de pauvreté. Donc l'espèce de légende qui dit que en fait, les gens qui sont au RSA, aux minima sociaux, ils ont tous des écrans plats, des iPhones et tout, c'est de la connerie, c'est pas vrai. Ils ont des téléphones pourris, tout pétés. Donc pour faire une téléconsultation avec ça, c'est impossible. Et du coup, c'était par appel téléphonique. Et du coup, ben, tous les services que j'ai rendus, les ordonnances que j'ai envoyées, eh ben, c'est pas facturé. Bon, ça, je parle, c'est ma cuisine de médecin, hein, mais il faut quand même qu'on vive, hein, nous. Bah oui, parce que là, bah, pendant 2 jours, j'ai travaillé en non-stop chez moi, par téléphone. Lundi, j'ai jusqu'à 3h du matin. Et ben, j'ai bossé gratos, en fait.
Sauf pour les consultations à domicile, qu'il fait évidemment dès qu'il y a une urgence. D'autant que ses 3 associés du cabinet ont tous pris une semaine de vacances avant le tsunami à venir.
Et donc, je me suis retrouvé tout seul. Mais juste pour cette semaine, hein, après les 2 autres hommes et notre super remplaçante qui est vraiment super. Ouais, ils vont revenir la semaine prochaine. Ça va aller beaucoup mieux. Et ça va aller beaucoup mieux.
Il y a donc la santé et puis il y a également l'économie. On a dit un confinement allégé comparé au mois de mars. Alors ça veut dire l'école et le travail continuent, mais ce sont les restaurants, les cafés, les cinémas, les théâtres et les commerces dits non essentiels qui restent fermés. Une décision encore difficilement acceptée, surtout par le petit commerce, Catherine Pétillon.
La maroquinerie, les jouets, les livres, ces 3 secteurs font l'essentiel de leurs ventes avant Noël. Et comme de nombreux petits commerces, ils réclament aujourd'hui de pouvoir rouvrir leurs portes. Les commerces dits essentiels, justement, sont définis par arrêté. Cela concerne par exemple aujourd'hui l'alimentation, la pharmacie ou encore les réparations mécaniques. Et c'est cette liste qui est dénoncée par de nombreux commerçants comme une différence de traitement. Pour le sociologue Vincent Chabot, auteur de l'ouvrage « Éloge du magasin », ce qui est en jeu, ce n'est finalement pas une affaire de secteur ou de produit.
Tous les commerces sont essentiels pour l'approvisionnement, bien entendu, mais aussi, donc les commerces spécialisés doivent rester fermés en ce moment. Je pense qu'il y a une question aussi du rôle social qu'ils jouent pour les individus. C'est un repère du quotidien, c'est un lieu du lien, un lieu de la relation. La moitié des Parisiens vivent seuls, par exemple, 46% des Niçois, 49% des Lyonnais vivent seuls. Et le magasin de toutes les tailles joue effectivement un rôle aussi pour les consommateurs. Donc, ce n'est pas l'État finalement qui doit décider quel commerce est essentiel ou pas, mais ce sont plutôt les consommateurs, les individus.
L'autre problème, c'est une forme de distorsion de la concurrence entre les petits commerces et les centres commerciaux, mais surtout avec celui qui économiquement profite le plus de la situation, Amazon. Le patronat, y compris le MEDEF, représentant plutôt les grosses entreprises, réclame d'une seule voix une réouverture des commerces d'ici 15 jours.
Et puis certains ont décidé de se rebeller. En tout cas, ils ne veulent pas se laisser faire au Mans, puisque la FNAC est restée ouverte, comme d'ailleurs partout en France. Et bien, les libraires de la ville ont décidé de le rester aussi. On écoute le reportage de Julien Jean de France Bleu Main.
Ils sont vent debout contre la FNAC qui a décidé de rester ouverte et de vendre des livres. Samuel Chevaux de la librairie Bulle et les 6 autres libraires indépendants du Mans, main dans la main, dénoncent cette situation.
C'est injuste. Nous, il n'y a pas de problème. Restons fermés, mais que tout le monde reste fermé. Que tous les autres secteurs nécessaires, alimentaires, restent évidemment ouverts, mais pas le reste. C'est injuste. C'est même dégueulasse.
Inadmissible, confirme Marie-Adélaïde Dumont de la librairie Doucet.
Aujourd'hui, dans le domaine de la culture, les seuls qui ont interdiction de vendre des livres, ce sont les librairies indépendantes. Ouais. Tout le monde peut en vendre, les plateformes, les grandes surfaces. Il faut se battre sur ce droit, c'est de la concurrence illégale.
La librairie Bulle va d'ailleurs au bras de fer. Je reste ouvert, dit Samuel Chevaux.
À titre personnel, moi je vous annonce que je resterai ouvert dorénavant, quel que soit ce que cela peut coûter. Et les autres collègues feront ce qu'ils veulent. Ça appelle de partout en France. Je vous le dis, moi je continuerai.
Avec ses clients, venus en nombre le soutenir.
Et merci à vous d'être là. Hein.
Quant à la FNAC, elle affirme, elle, qu'elle est bien autorisée à ouvrir ses magasins pour la vente de matériel informatique et que par conséquent, tous ses rayons, y compris la librairie, resteront accessibles.
Et puis parfois, ça paye donc de se rebeller. La FNAC et la grande distribution autorisée à ouvrir devront fermer leurs rayons livres. La décision a été prise lors d'une réunion de crise qui s'est tenue cet après-midi à Bercy. L'enquête de la cellule investigation de Radio France s'intéresse ce soir à une curieuse association. Bonsoir Benoît Colomba.
Bonsoir Annabelle.
SOS Éducation, c'est son nom, et dans le collimateur de la Cour des comptes, épinglé cette semaine pour sa gestion. Et en enquêtant sur elle, vous avez découvert des pratiques assez étranges.
Oui, alors SOS Éducation sur le papier, c'est une association qui dit militer pour rétablir l'excellence de l'éducation face à un système scolaire qu'elle juge défaillant. L'association revendique 50 000 adhérents, ce qui n'est pas rien. Et elle s'était déjà fait connaître en utilisant des méthodes assez particulières, comme le raconte le journaliste Emmanuel Davidenkov qui avait enquêté sur elle en 2003 pour le journal Libération.
Des enseignants de toute la France m'envoient soit des photocopies, soit des exemplaires de courriers qu'ils ont reçus à leur domicile, et avec derrière une prose très catastrophiste, très, on dirait, collapsologue aujourd'hui sur l'éducation nationale, sur l'état de l'école. L'école va mourir, nos enfants sont en train de se faire assassiner, etc., etc.
Et pour diffuser ce discours, on utilise le publipostage de masse avec à la clé un appel à récolter des dons à travers des pétitions, des référendums sur l'école. 3 millions d'euros ont ainsi été récoltés en 2008, 700 000 aujourd'hui.
Et le problème, c'est que dans son rapport, la Cour des comptes constate une défaillance dans la gestion de ses dons.
Oui, elle a retrouvé notamment d'étranges retraits en espèces et des dépenses injustifiées comme des achats de billets de spectacle. Et en regardant à la loupe les actions revendiquées par SOS Éducation, les magistrats financiers ont fait un constat assez cruel. Écoutez un extrait du rapport que nous avons fait lire.
La Cour a constaté que, en dehors de l'encaissement des dons, l'association ne donnait que très peu de suite opérationnelle à ses publipostages. L'appel à dons est non pas l'objectif secondaire du publipostage, mais bien son objectif principal, sinon unique.
Autrement dit, selon la Cour des comptes, l'association chercherait plus à faire rentrer de l'argent qu'à se préoccuper d'éducation.
Et ça ne s'arrête pas là, il y a aussi un problème avec les impôts.
Oui, l'association délivre un reçu fiscal à ses donateurs pour qu'ils bénéficient d'une déduction d'impôt, sauf qu'elle le fait contre l'avis du fisc, qui considère qu'elle n'en a plus le droit. Résultat, les impôts lui réclament la somme d'1,5 million d'euros, d'où encore ce constat de la Cour des comptes.
Les dirigeants de SOS Éducation ont potentiellement compromis la pérennité de l'association, trompant de ce fait la confiance des donateurs qui en assurent la quasi-totalité des ressources.
Et je précise que SOS Éducation, qui n'a pas répondu à nos questions, conteste ces critiques et ce redressement fiscal.
Et derrière cette association, Benoît, il y a l'influence d'un homme.
Oui, il s'appelle Vincent Larman. C'est lui qui a fondé SOS Éducation, mais aussi d'autres associations qui fonctionnent sur le même modèle, comme l'Institut pour la Justice. Aujourd'hui, il est à la tête d'une société basée en Suisse qui vend des publications préconisant de se soigner avec des produits naturels, avec parfois des techniques de vente un peu limites, comme l'explique un ancien salarié de son service client dont nous avons modifié la voix. Il raconte comment, à une époque, après avoir donné leurs coordonnées bancaires, certains clients étaient incités à acheter en cliquant sur un simple lien. C'est ce qu'on appelle la technique du one click.
Et le client, dès qu'il cliquait, one click, sa commande était validée. On ne s'imagine pas, en cliquant sur un lien de mail, être abonné ou être débité directement. Mais si on ne faisait que le clic, on était quand même abonné, on était débité. Pour des programmes parfois très importants.
Et je précise que Vincent Larman non plus n'a pas répondu à nos questions.
Et on le regrette, mais ce que vous avez découvert, c'est que l'homme a une vision assez particulière de la médecine.
Effectivement, écoutez ce qu'il disait à ses collaborateurs lors d'une réunion de formation en juillet 2017.
90-95% des médicaments sont absolument nuisibles à la santé. En fait, je crois fondamentalement que même il n'y a aucun médicament qui est bon pour la santé.
Le Conseil de l'Ordre des médecins a été alerté à plusieurs reprises sur le contenu de certaines de ces publications, des alertes transmises au Centre de lutte contre les criminalités numériques.
Merci Benoît Colomba, votre enquête est à retrouver sur le site de France Culture. On finit ce journal avec un détour par la Pologne. Les Polonaises et les Polonais ont commencé à manifester en faveur du droit à l'avortement. C'était à 17h cet après-midi, grande manifestation à Varsovie après 7 jours de mobilisation depuis que le tribunal constitutionnel a interdit l'avortement en cas de grave malformation du fœtus. L'avortement reste autorisé seulement en cas de viol, d'inceste et de danger pour la vie et la santé de la femme. Une décision qui a suscité une mobilisation à l'ampleur inédite et une colère qui ne faiblit pas. Sarah Bakaloglu suit la manifestation à Varsovie pour nous, France Culture.
Ce sont trois cortèges différents qui ont lancé cette grande manifestation ce soir à Varsovie. L'un est parti d'une place située près du siège du parti au pouvoir, le parti Droit et Justice. Le deuxième a démarré près du bureau du Premier ministre et le troisième de la vieille ville de Varsovie. Trois cortèges qui doivent se rejoindre pour ce rassemblement annoncé depuis plusieurs jours comme le plus grand rassemblement depuis le début de la mobilisation la semaine dernière. Des militaires ont été déployés dans les rues de la capitale et les manifestants rencontrés sont très déterminés à marcher toute la soirée soirée. Beaucoup d'entre eux sont venus d'autres villes du pays spécialement pour se rassembler à Varsovie. Quelques heures avant le début de cette manifestation, le président polonais a proposé un compromis au Parlement, autoriser l'avortement si le fœtus a une maladie létale, mais l'interdire en cas de trisomie par exemple. Une proposition rejetée par les manifestants rencontrés ce soir à Varsovie. On ne fait pas confiance au président polonais et nous voulons la liberté de choisir, pas un compromis, ont-ils réagi.
À noter un important tremblement de terre en mer Égée. L'épicentre se situe entre l'île grecque de Samos et la ville d'Izmir en Turquie. Le séisme d'une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter a provoqué un mini tsunami qui a balayé les côtes grecques et provoqué l'effondrement de plusieurs immeubles dans la province turque. On déplore pour l'heure 4 morts et 140 blessés. Le temps de demain sera marqué par une perturbation dans le nord du pays, tandis que le thermomètre affichera des températures très douces pour la saison, en particulier dans le sud, en Aquitaine et en Méditerranée, jusqu'à 23 à 26 degrés. 18h.